Voici le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
3, 2, 1.
On se remémore en ce 11 septembre, les attentats du 11 septembre 2001. Et en écoutant ça, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que je me souviens encore où est-ce que j'étais exactement à ce moment-là quand on m'a appris qu'il y avait les tours jumelles à New York qui étaient attaquées. J'étais sur la route, puis j'ai entendu un Denis Gravel qui avait à l'époque 23 ans. Et d'entendre cette voix-là, Denis, ça m'a surpris. Ta voix a vraiment changé.
La voix a changé, puis il faut se rappeler aussi qu'on était sur les nerfs et sur l'adrénaline. Là, je veux dire, on était porté par nos émotions, par les images qu'on essayait de comprendre. Puis on essayait de mesurer la magnitude de l'événement aussi. Hey, je viens d'avoir la conversation sur le 11 septembre avec mes deux gars dans le char à cause de ça. L'excellent montage que vous avez fait entendre, il a passé aux environs de 7 heures ce matin.
Ouais.
On venait d'embarquer dans le char. Puis,
tes gars t'ont-tu reconnu?
Oui.
Ah oui?
Oui, ils m'ont reconnu. Ah. C'est toi ça, papa? J'ai dit, ben oui. Puis là, on a commencé à faire les calculs. Puis je dis, ouais, j'avais 23 ans. Le temps passe vite, ça n'a pas de maudit bon sens.
Ça fait-tu longtemps que tu étais dans le show du matin à ce moment-là?
J'y étais depuis, mon Dieu, mon arrivée, ça veut dire 99. 98, 99, okay. Ça faisait déjà quelques années.
T'étais encore un green, mais cette journée-là, la Radio de Québec a été hyper populaire. Là.
Oui, puis c'est là que on était à Radio X à l'époque, puis on jouait encore de la musique, si je ne m'abuse. Puis cette journée-là, ben, on avait décidé de tout scraper, puis de rester en onde toute la journée. On était resté en onde avec Jeff Filion jusqu'à midi, puis après ça, l'équipe de Gilles Parent avait pris le relais, puis moi, j'avais comme été la courroie de transmission. Je travaillais dans les deux émissions à l'époque, c'est ça. Puis
tu faisais le matin et le retour?
Oui, oui.
On reconnaît les propriétaires d'antan.
On travaillait fort. Nous étions jeunes.
Denis, mais, oui, écoute, là, j'ai quelque chose à te proposer.
Là, tu parles de propriétaire d'antan, là. Il fait des doubles à chaque jour, je fais des doubles
ouais,
à chaque
ben,
jour.
C'est pas la même chose.
C'est pas pareil, c'est pas le retour.
Lui faisait le matin le retour. Fait qu'il se levait à 2-3 heures du matin.
Ouais, j'avoue.
À 18 heures, il devait être encore allumé comme un rond de poil.
Le pire bout, c'est quand j'ai animé le retour une première fois avant l'arrivée de Gilles Parent, mais ils m'ont laissé le matin aux nouvelles.
Aïe, aïe.
Fait que je me levais à 3 heures le matin. Je pouvais pas dormir entre les deux shows parce qu'il fallait que je prépare le retour.
Ouais,
ça a été... on était jeunes.
Ces jeunes-là n'ont pas connu ça, cette misère-là humaine. Là.
La misère.
Où tu dors tu vas au bar parce que là, il faut que tu vives ta jeune vingtaine. Tu dors dans ton char. Après ça, tu rentres travailler. Puis là, ben ils te disent, OK, ben, tu t'es levé à 2 heures du matin. Mais là, le gars du midi, il est pas là. Ou le gars du retour est pas là. Tu peux-tu faire le chiffre? Ouais, mais c'est parce que ça fait depuis 2 heures du matin que je suis levé.
Ça m'est déjà...
Je l'ai fait une couple de fois, ça. Là,
t'as-tu déjà fait un triple chiffre?
Oui.
Oui, OK. Parce que ça, je l'ai fait pendant une semaine. Matin, midi, retour. Ouais.
Ça, c'est une bonne journée.
cette journée-là a été marquante pour plusieurs. T'sais, moi, j'étais sur la route, puis je venais de reconduire ma blonde qui étudiait au tour de psychologie à l'Université Laval. Les deux tours qui sont pareils à l'Université Laval.
Oui.
Puis mon premier réflexe, quand je suis dans le char, puis je t'entends parler d'une tour, c'est moi dans ma tête, il y a un avion qui est rentré dans la tour. Puis là, Caro, es-tu morte? Puis là, j'avais un stress jusqu'à temps que je comprenne que ça se passe à New York. Fait que j'ai levé le son. Mais toute la journée, je pense que tout le monde, même les profs à l'école, étaient rivés sur les écrans de télé, savoir qu'est-ce qui se passait. Puis ceux dans la voiture, bien, écoutaient la radio. Puis même, il y a des gens qui écoutaient la radio à la maison, avec le poste de télé ouvert. Oui.
Ça a été un privilège de pouvoir partager cet événement-là avec les gens de Québec. C'est ça que j'essayais d'expliquer aux enfants. T'sais. C'est une tragédie, mais c'est dans ce temps-là que la radio devient importante. Je peux pas dire, c'est mon plus jeune, il disait, ben papa, ça a été ta plus belle journée au travail. Non,
non,
il y a des milliers de gens qui sont morts. C'est pas une belle journée, c'est une journée tragique. Mais c'est là que la radio devient importante. Puis des années plus tard, il y a des gens qui se souviennent, puis c'est encore à vif, qui écoutaient la radio cette journée-là. On les a accompagnés. Ça a fait une différence pour eux autres parce qu'on partageait à la fois l'information et l'émotion. Ça va faire 25 ans l'an prochain. Ça va faire un quart de siècle l'an prochain. Puis Véro se demandait ce qu'on faisait pour le 11 septembre cette année, hier, puis elle voulait poser la question, est-ce que c'est un sujet que vous abordez avec vos kids, tu sais, 24 ans plus tard, où on est juste passé à autre chose? Puis ironiquement, ben, les questions ont commencé ce matin dans mon char. Ouais. Puis j'ai eu à parler de terrorisme, j'ai eu à parler de politique internationale, de société américaine, de guerre de religion, d'Oussama Ben Laden, de George W. Bush. Puis, ironiquement, ben ça arrive alors qu'il y a quelques heures à peine, il y a quelqu'un qui s'est fait tirer dans la gorge aux États-Unis,
ouais.
Nous montrant qu'on n'a peut-être pas beaucoup évolué en tant que société depuis.
Tu sais, moi, j'adore être un père de famille, là, mais il y a des bouts où je suis pas capable de jouer à la Vita et Bella. Là. Fait que quand ils me posent des questions sur l'actualité ou des choses qui se sont passées près d'eux, tu sais, quand ils ont retrouvé un ado de 14 ans en Beauce, là, qui était un peu magané au niveau du corps, là, il a fallu que j'explique qu'il y avait un jeune de 14 ans qui s'est fait tuer à Frampton parce que lui s'est attaqué à un bunker de moteur, puis on sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé exactement, mais il a été retrouvé en morceaux. C'est arrivé aux oreilles de mes enfants à l'école.
Ouais.
Fait que là, quand mes gars arrivent et ils posent des questions, j'aimerais bien être le gars dans La Vita est belle là, mais j'ai pas le choix de leur raconter exactement ce qu'il en est.
T'sais,
l'histoire de Charlie Kirk, là, je veux dire, eux autres, là, je leur en ai pas parlé, je vais les voir à soir parce qu'il faut que je monte pour leur hockey. Mais ils sont sur TikTok, mes gars, là. Ils ont certainement tombé sur ces images-là.
De... Mon grand jouait au soccer hier soir. Il se ramasse une gang de kids. Ils ont tous entre 12 et 15 ans. Puis à un moment donné, sur le terrain de soccer, il y a quelqu'un qui a montré la vidéo aux autres kids. Puis mon gars, il ne savait pas c'était quoi. Puis en entendant les nouvelles ce matin, il a allumé. Puis il dit, papa, je pense que j'ai vu la vidéo de ce gars-là hier.
Il a quel âge?
Il a 12 ans. Tu sais, nos kids sont exposés à ça beaucoup plus rapidement que nous autres. Puis ça oblige des conversations où tu te demandes toujours, tu vas jusque où? Puis en même temps, moi, ça m'a permis d'expliquer parce que là, chez nous, c'est le débat Snapchat. Puis on est donc bien des parents horribles de ne pas lui permettre d'installer Snapchat
quoi?
Sur son téléphone.
Moi, je l'ai fait. J'ai juste enlevé la localisation
parce
que je voulais pas que les gens sachent où est-ce que mon plus jeune habitait puis mon plus vieux habitait. Mm-hmm. Fait qu'ils ont enlevé la localisation. Puis une fois de temps en temps, je prends leur cellulaire, je leur demande avant.
Ouais.
Je peux prendre ton cellulaire. J'aimerais ça regarder si la localisation sur ton Snapchat est encore là. Il me le prête, puis là, je pose des questions. Tu sais, c'est qui tel ami? Parce que des fois, mettons qu'il y a un Serge, là. Tu sais que Serge n'a pas 12 ans.
C'est ça.
Ben, tu fais question.
On lui souhaite.
C'est qui ce Serge-là? Ah, ben, c'est un Serge qui m'a ajouté, mais il m'a jamais parlé. Ben,
tu regardes son adresse, childlover à yahoo.là. Ouais, OK, là, il y a un problème.
Fait que là, puis ouais, tu sais, la photo, c'est un pédovan blanc, là. Écrit Free Candy dessus. Fait que là, tu prends l'application, puis là, tu bannis Serge. Puis j'essaye le plus possible de les aider.
C'est pas évident.
La Vita est belle là, c'est difficile avec nos enfants. Puis comment tu peux expliquer à tes enfants, Denis? Puis comment, tu sais, les parents qui nous écoutent vont expliquer à leurs enfants qu'aujourd'hui, en 2025, tu peux encore te faire foutre une balle dans la tête parce que les gens sont pas d'accord avec tes opinions?
C'est triste parce que il y a eu un moment dans l'histoire américaine récente où tu as un président qui a été assassiné. Tu as le militant le plus en vue pour le droit des Noirs qui a été assassiné aussi. Puis là, on a l'impression qu'on est reparti un peu dans cette escalade-là. Puis je veux surtout pas hisser Charlie Kirk à la hauteur de Martin Luther King ou d'un président américain. C'est pas ça le but. C'est juste la violence qui engendre la violence. Puis dans le discours actuel, tu as beaucoup de « c'est de la faute aux autres ». Tu sais, aux États-Unis, puis t'as un président qui se nourrit de ça, qui est pas capable de s'élever au-dessus de la mêlée, malheureusement, pour dire « Hey, on peut-tu prendre toute la gang 5 pas de recul, puis dire « La violence, ça règle rien, puis la violence engendre la violence. » Fait que t'as des républicains qui disent que c'est de la faute aux démocrates parce qu'ils démonisent les républicains. T'as des démocrates qui disent « C'est de la faute aux républicains parce que n'importe qui peut encore se ramasser un gun à peu près n'importe comment, puis vous faites rien pour régler ça. » C'est la faute à l'autre, là. Ça règle rien, ça fait pas avancer les débats. Et le résultat, ben, c'est que t'as des gens qui expriment des opinions qui sont abattues en pleine place publique. Puis ça a bien beau être les opinions les plus ridicules de l'univers. Te prendre une balle en pleine gorge pour ça, moi...
Puis il y a des gens qui se réjouissent de ça, là.
Oui, ouais. Puis ça fait partie de ma tristesse.
Denis, j'ai toujours pensé que les femmes étaient plus douces que les hommes. Hier, j'ai vu des femmes dire « Yes, ils l'ont eu.
Mm-hmm. »
je trouve ça particulier, mais en même temps, ça nous donne l'occasion de faire le tri. Là. Je sais que toi, pendant la pandémie, tu as fait le tri de
oui.
ça.
Oui, oh, oui, ça.
Ah, c'est cool, les réseaux sociaux. Je peux voir qui est dans les extrêmes.
Et je peux les bloquer.
Ben, hier, ça a servi à ça, voir les, ouais. les gens qui sont incapables de discuter avec les autres. Puis, soit dit en passant, tu sais, moi, j'ai regardé quelques-unes de ces capsules. Puis, la plupart du temps, j'étais pas vraiment, j'en parlais avec David tantôt, j'étais pas vraiment d'accord avec ce gars-là. Mais il a le droit d'émettre ses opinions, au même titre que quelqu'un qui est à son opposé a le droit d'émettre ses opinions aussi.
Puis c'est sûr que quand tu as des opinions tranchées puis que tu t'en vas confronter les gens qui pensent pas la même chose que toi, tu t'exposes dans une certaine mesure, mais tu t'exposes pas à une balle dans
non,
la tête.
Non, tu t'exposes pas à la mort.
C'est pas le but de personne.
Tu t'exposes à être peut-être battu dans un débat, à devenir plus hésitant, mais certainement pas être tué. Moi, ce qui m'a rassuré hier, c'est notre jeunesse, parce que je suis allé chercher mon gars à sa pratique de football hier soir, et tout de suite en embarquant dans l'auto, ils disaient, Paige, j'osais le dire avec mes chums, ils disent, ça n'a pas d'allure, crime, tuer quelqu'un parce qu'il ne pense pas comme toi. Ouais. Ça m'a rassuré de savoir que notre jeunesse pense de cette façon-là à l'heure actuelle, à souhaiter que ça continue avec le temps. Mais vraiment, tu sais, les jeunes hier faisaient, ben voyons, comment ça arrive en 2025 dans un pays démocratique comme les États-Unis.
Et de voir qu'aux États-Unis, présentement, on prend toutes les meurtres, tous les assassinats, puis on essaie tous de les politiser pour ouais. démoniser les gens justement qui pensent pas comme toi. Les débats, ça avance pas comme ça, puis les sociétés, ça évolue pas comme ça non plus. Et comme j'expliquais à mes enfants dans le char à matin, c'est pas en tuant du monde que tu vas faire un point, ni d'un bord, ni non. de l'autre. Ça commence avec... On règle rien qu'un coup de poing d'en face. On règle rien avec une balle de fusil. La violence engendre la violence. Puis on semble malheureusement être reparti dans une spirale comme ça aux États-Unis. Puis c'est triste. C'est triste pour la gauche, la droite, les gens qui veulent discuter de politique avec une certaine dose d'ouverture. C'est un pays de plus en plus profondément divisé, puis les extrêmes parlent de plus en plus fort, ont de plus en plus de planchers, et moi, je vois un sandwich là-dedans, là, ouais. puis nous autres, on est dans le milieu, là, la viande, là, puis on regarde les extrêmes se chicaner, puis on se dit, tabarnouche, la tempête s'en vient, puis on peut ouais. pas faire grand-chose.
Ça s'en vient comme ça aussi, de plus en plus violent au Canada. Tu sais, je prends exemple ce qui se passe à Montréal ou ce qui se passe à Toronto quand il y a des manifestations.
Ah, c'est terrible, oui.
Je pense que la plupart des gens sont conscients que ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe à Gaza, ça n'a pas de sens, là. C'est un drame humain. Puis là, ben, ces gens-là se ramassent dans les rues puis ils se sentent investis d'une mission. Puis là, de l'autre côté, tu as des pro-Israël qui se sentent investis d'une mission puis ces gens-là se tapent ça à la gueule. Puis ils passent leur temps à se déchirer alors qu'ils...
Ils demandent la paix en Israël, mais ils font exactement la même chose qui se passe là-bas dans nos rues ici. C'est tristement ironique.
Ça s'en vient, tu sais, ça va être de pire en pire. Tu voulais dire quoi, Jeff?
Ben, je voulais dire, les extrêmes ont de plus en plus de place, que ce soit aux États-Unis ou même ici au Canada, parce que les partis politiques ont besoin d'eux maintenant pour être élus au pouvoir.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai. J'aimerais, moi, qu'on se débarrasse des courants extrêmes et à gauche et à droite. Puis en même temps, ben, regarde les intentions de vote. Présentement, au Québec, moi, je vois qu'on est revenu un petit peu dans le milieu, là.
T'as raison.
Puis je pense que ça fait partie des erreurs et de Québec solidaire et des conservateurs d'Éric Duhaime de pas s'être débarrassés de leurs extrémistes puis de dire, nous autres, on a une pensée alternative, mais on a une pensée alternative logique. On n'a pas besoin de conspirationnistes, on n'a pas besoin d'extrémistes pour avancer nos causes. Puis c'est peut-être des gens qui font beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, mais c'est du mauvais bruit. Quelqu'un qui veut être convaincu ou excité politiquement, tu veux pas faire partie de la même gang que ces gens-là, ni à gauche, ni à droite, à mon humble avis.
Denis, quand on se promène sur la route, on voit visiblement que le circuit routier dans la grande région de Québec a vraiment beaucoup besoin d'amour. Si vous vous faites aller un peu sur les routes du Québec, vous allez dans le secteur de Montréal, les routes sont maganées
on
à
se
grandeur.
Fait aller.
Puis avec tout ce qu'on voit à la commission Galant, j'étais là, tabarouette, le prochain ministre des Transports, là, ça va être le ministre choisi par François Legault qui va faire un grand ménage, qui va peut-être des fois aller à l'encontre dans les décisions, à l'encontre de ce que la majorité au cabinet des ministres veulent en disant non, faut faire quelque chose pour nos routes, faut cesser que l'argent des Québécois soit dilapidé. Puis hier, on nous annonce Jonathan Julien. le gars qui travaillait à la Ville de Québec, qui était responsable de faire bâtir une centrale de police à Québec, centrale qu'on a aujourd'hui et qui est magnifique, mais qui avait oublié de bâtir un stationnement.
Ouais, Jonathan l'échappé, là.
C'est pas quelqu'un qui... c'est pas quelqu'un qui a du leadership. À mes yeux, à moi, c'est pas quelqu'un qui a du leadership. C'est plus le second, le gars qui va constamment écouter ce que lui qui est en haut va lui dire de faire et de dire. J'ai de la misère avec ça.
J'ai l'impression que le jovialisme de Jonathan Julien a été récompensé. C'est lui qui a eu le plus gros bonus là, dans le remaniement ministériel d'hier. Puis même les grands observateurs politiques semblaient surpris. Ah ouais, Jonathan Julien, qui est un peu, je sais que le terme n'est pas très flatteur, mais c'est un peu le yes-man du gouvernement Legault. Là.
Exact.
C'est la tête bubblehead qui fait oui-oui en arrière quand on a des belles annonces. C'est le gars qui nous a dit que tout allait bien dans Saint-Roch, que les routes, tout allait bien aussi. Je veux dire, tout va toujours bien avec Jonathan Julien. Puis on a, puis je suis pas sûr que c'est un bon message non plus dans un gouvernement qui veut changer puis qui veut montrer sa nouvelle couleur.
Monsieur Julien, qu'est-ce que vous pensez de l'itinérance au centre-ville de Québec?
Ça va bien.
Ça va bien.
Ça va bien.
Oui, ça va mieux qu'ailleurs.
Ça va bien.
Tu sais, le gars a de l'air bien sympathique, bien gentil. Il y a pas personne qui a vraiment quelque chose de mal à dire sur Jonathan Julien. Et ça fait peut-être partie en soi du problème. Est-ce qu'on a vraiment besoin, là, d'un gars qui dit que tout est beau au ministère des Transports pour essayer de changer le message puis peut-être de clasher avec le ton un peu plus abrasif de Geneviève Guilbeault avant? Peut-être, mais moi je vois ça comme une promotion. Hey, merci d'avoir dit oui-oui à TV pendant des années, puis de t'être entêté à dire que tout était beau, même quand tout était laid.
Et depuis quand on donne une promotion à un sabot de Denver?
Écoute, le gars qui a oublié de mettre un parking pour les voitures d'une centrale de police est rendu ministre des Transports.
Ah, lâchez-le avec ça. Vous revenez tout le temps avec la même petite erreur.
Ben, moi, je vais revenir d'abord avec le fait qu'il pensait qu'il y avait des milliers de projets. Finalement, c'était une feuille 8,5-14. Tu sais, donc, comment il va faire pour démêler ce fouillis-là? Parce que hier, moi, j'ai juste mettre de l'ordre à la SAAC, c'est un ministère en soi. Puis là, tu rajoutes la MTQ par-dessus.
Vous avez vu je pense que les jeunes appellent ça un mime, Max? Un mime, ça dit quelque chose, un mime. Tu sais, le petit chien, là, sa maison brûle, puis le petit chien, il prend sa tasse de café, là, puis tout brûle autour, puis il dit « This is fine ». Tu sais, tout brûle, mais tout est beau. Jonathan Julien, c'est le chien du mime, je veux dire. C'est le gars qui s'en va dans le ministère qui brûle, qui va s'asseoir, puis qui va dire « Non, non, tout est beau. On a un beau ministère, on a des belles solutions. » Il y a peut-être bien des gens au ministère des Transports qui ont besoin d'un ami. Ben, Jonathan Julien va être votre ami.
Je vais être très positif, là. Je nous souhaite la meilleure des chances.
Ben, mais est-ce qu'il est là parce que ça prenait juste un ministre des Transports qui vient de la capitale nationale pour avancer le tramway puis le troisième lien?
Hey boy! On a parlé avec Gilles Lehoulier hier, maire de Lévis, puis tu sais, des fois, il y a une image du verre à moitié vide, verre à moitié plein pour montrer si t'es positif ou négatif. Dans le cas des espoirs du troisième lien, il y a trois gouttes d'eau dans le verre. Puis Gilles Lehoulier, hier, nous a dit « Ouais, mais il reste de l'eau, là! » Puis Gilles Lehoulier dit « Bon, moi, ma... »
Je pensais que t'allais me dire « Il a bu trois gouttes d'eau pour dire qu'il n'existe plus d'espoir! »
Écoute, Gilles Lehoulier nous a dit hier que Bernard Drainville a été placé à l'environnement peut-être pour faire en sorte que des projets comme le troisième lien s'accélèrent. Okay. Donc, on aurait mis quelqu'un qui... Là, chez nous, avec les GES, va utiliser le ministère de l'Environnement pour faire en sorte que la paperasse aille plus vite pour le troisième lien.
Ça a fait partie du discours de François Legault hier, ça.
J'y crois plus ou moins.
OK. Moi, je pense que oui.
Ah ouais, t'es un believer.
Je pense que Drainville va faire la job de bras à l'environnement que le gouvernement avait besoin, comme Carney est en train de faire au Canada.
Y a-tu fait une job de bras en éducation? Il va être différent.
Yannick.
On va le booster au stade.
Yannick, c'est Bernard. Oui, bonjour, Jean-François.
Salut.
Salut, Maxime.
Salut.
Salut, c'est Bernard.
Bonjour.
Ouais. Hey, moi, quand j'étais ministre de l'Éducation, j'ai mis fin à l'intimidation.
Non, attends. Bernard, quand il était ministre de l'Éducation, t'as oublié la troisième personne.
Non, mais c'est parce que tu sais pas où je m'en vais, Maxime.
Ben, continuez.
Oui. Là, Bernard, il s'en va ministre de l'Environnement.
Ah, là, on le reconnaît.
Évidemment, Bernard va régler le réchauffement climatique. On va commencer par les petites choses.
Qui est Bernard?
C'est le prochain premier ministre du Québec.
Mais c'est vous qui parlez présentement?
Absolument.
OK.
T'es malade, Gravel.
Donc, nouveau conseil des ministres, il y a des petites surprises. Moi, qu'Éric Girard reste en place. Bon, je comprends que c'est un grand financier. Le problème étant qu'il est incapable de boucler un budget qui a du sens. Christine Fréchette, je l'aurais laissé exactement à cet endroit-là.
Éric Girard, c'est normal qu'il ait gardé son ministère.
Pourquoi?
Parce que l'an prochain, il y a moins de matchs hors concours dans la Ligue nationale de hockey. Fait que ça va être plus dur d'en amener au centre Vidéotron. Il y a des grosses responsabilités, des gros mandats.
Garde ton calme, Yannick. Garde ton calme. Sonia Lebel qui prend du galon, qui s'en va à l'éducation. Je pense qu'elle va faire une belle job.
Oui, c'est une des rares personnalités de ce gouvernement-là qui n'est pas encore entachée par quoi que ce soit. Une chance pas elle que François Legault a appelé Cruella hier, là, mais... Hey, j'ai... une bonne blague, là. Je sais pas si j'ai fait...
Ça, c'est France-Hélène Duranceau.
Oui, oui, oui. Elle a perdu son nom hier, là. Elle s'est rendue Cruella. Elle a les cordons de la sacoche, puis la sacoche chauffe plus.
Tu peux faire jouer l'extrait, si tu veux, Yann, dans ma chaîne.
C'est le gag. La dernière fois que j'ai entendu aussi peu de gens rire, c'est quand la soirée est encore jeune et venue s'essayer à Québec d'un gala.
Et la nouvelle présidente du Conseil du Trésor... Je me retiens pour pas faire une blague. Qu'on n'appellera pas Cruella, non. Va être en charge. Bon, sincèrement, on enchaîne.
Oui.
La nouvelle présidente du Conseil du Trésor va être responsable d'aller s'assurer dans chacun des ministères qu'on fasse le ménage dans la bureaucratie et va avoir mon support à 100%.
Comme je suis un journaliste d'enquête et que je ne connaissais pas Cruella, j'ai été sur Wikipédia.
Oui.
Londres, années 70, Estella est résolue à se faire un nom dans le milieu de la mode. Elle se lie d'amitié avec deux jeunes vauriens qui apprécient ses compétences d'arnaqueuse.
Ouais, t'es un dalmatien, là.
Et mène avec eux une existence criminelle dans les rues de Londres. Un jour, ses créations se font remarquer par la baronne Von Hellmann, une grande figure de la mode. Mais leur relation va amener Stella à se laisser envahir par sa sombre... par sa sombre part, au point de donner naissance à l'impitoyable Cruella. Wow!
Ouais, elle voulait des manteaux de fourrure en peau de dalmatien.
Mais tu sais, c'est supposé être un beau moment, là. Tu sais, je veux dire, quand t'es un ministre, t'es annoncé comme ministre, c'est quand même une certaine fierté dans ta carrière. Puis là, ben, on lui donne un autre ministère, puis t'as Gérard qui l'appelle Cruella.
J'ai pensé à...
Une arnaqueuse.
j'ai pensé à mes amis lutteurs de la NSPW hier. Quand tu joues un méchant à la lutte,
oui.
C'est le plus vieux truc dans le sac de trucs, là, tu sais. Moi, je m'appelle Gravel, puis appelez-moi pas Gros Tweet. Gros Tweet, Gros Tweet. Hey, je vous ai dit de pas m'appeler Gros Tweet. Puis là, les gens, ben, Gros Tweet. François Legault, hier, a donné le surnom de Cruella de façon permanente à une pauvre madame qui l'avait pas demandé.
Il l'a dit qu'elle ferait pas la joke.
Oh, oui, appelez-moi pas Gros Tweet. C'est qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? T'incites les gens à faire exactement le contraire.
Parce que lui, il l'a pas fait.
Il va refaire un point de presse aujourd'hui, je te le dis. Bon, là, les gens l'appellent Cruella. J'aimerais ça qu'on fasse pas ça. Appelez-le pas Cruella. Le monde va continuer.
Il avait une affaire comme c'est pas aux locataires de décider combien ils doivent payer pour leur logement. Puis il y avait des mauvaises blagues qui se faisaient sur elle parce qu'on disait qu'elle était hautaine, elle avait des belles chaussures.
Ouais.
Louboutin.
À 1 000 $ pour annoncer du logement social.
Après, il y a des sacoches à 10-15 000 $. C'est une femme d'affaires qui a bien réussi, puis elle aimait étaler ses trucs. Moi, écoute, je suis pas de même, là. Mais j'ai pas son argent non plus. Mais
t'as pas grand-chose à étaler, même si tu voulais.
Pas très habillé à mode non plus, là. Mais tu sais, j'ai pas de problème avec ces gens-là. Aucun. Tu as réussi dans la vie, puis tu veux t'acheter ces trucs-là, c'est bien correct. Mais les mauvaises blagues que j'avais entendues, puis c'est Christian qui nous envoie ça, durant... je l'avais vu passer, Duranceau aurait un manteau en peau d'itinérant. Je l'avais entendu. C'était pas beau, là.
Il y a sûrement des caricatures très méchantes à faire avec ça. Ouais.
Mais c'est ça. Là, François Legault, c'est sa dernière tentative.
Ouais.
Actuellement, s'il y avait des élections aujourd'hui, il y aurait 0 député de la Coalition Avenir Québec qui remporterait leur comté. Quand même, Legault est autour de quoi? Il score à 11% avec la Coalition Avenir Québec.
Ouais.
Il est juste au-dessus de Québec solidaire puis en dessous d'Éric Duhaime du Parti conservateur du Québec.
Incroyable.
C'est juste hallucinant. Qui aurait dit ça, là, 2 ans, 3 ans?
Ça va vite. Ça va vite quand ça descend.
Est-ce que t'es convaincu qu'il quitte, mon ami?
Hey, écoute, je sais plus. Je le sais plus. J'ai l'impression qu'il s'accroche. J'ai le feeling qu'il... va rester, mais plusieurs observaient hier que le titre de vice-première ministre a été retiré et que ça n'a pas été redonné à personne. Puisqu'Antonin Iaccarini nous disait hier soir, c'est comme papa qui se fâche puis qui enlève le nanane à tout le monde, là. Mais ça peut laisser présager une course à la chefferie dans... Ouais. Pas très longtemps, parce que tu veux pas donner un titre honorifique à quelqu'un pour l'officialiser comme étant ton dauphin ou ton successeur. Il y a des gens qui spéculent là-dessus. Moi, je suis pas certain. Je pense qu'il reste plus beaucoup d'humanité ou de ground à François Legault. Je pense qu'il va s'accrocher jusqu'à ce que ses troupes soient balayées de la carte.
D'un autre côté, François Bonnardel, Maïté Blanchette-Vézina et André Lamontagne n'étaient pas hier à la sermentation. Ces trois ministres qui ont été tassés. Donc, est-ce qu'il y a des pushs à l'interne qui vont s'organiser?
Je ne sais pas, mais bouder, c'est jamais la bonne attitude à avoir dans ce genre de situation-là.
Mais non, parce que ça crée une scission.
Bonnardel a vraiment mal paru pendant la commission Galant. Il a été quand même un joueur d'équipe en disant qu'il acceptait la décision du premier ministre de vouloir rajeunir le conseil des ministres. Moi, si j'avais été lui, je me serais encore pointé. C'est pas dit qu'il reviendra pas ministre à un moment donné. Si jamais il y a un sauveur de la CAQ qui arrive et qui réussit à remonter ce parti-là. Mais je reviens avec l'annonce de Jonathan Julien au ministère des Transports. J'ai tombé à terre.
On veut vraiment... Il y a deux affaires là-dedans. On veut récompenser le gars qui dit oui, tout est beau tout le temps. Et on veut vraiment changer l'image du ministère des Transports. Mais penser que Jonathan Julien a plus de pouvoir qu'il en avait, je pense que c'est s'illusionner de bien des choses. Le pouvoir, présentement à la CAQ, puis ça semble être un problème majeur, c'est qu'il est dans le haut de la pyramide. T'as François Legault, t'as l'entourage de François Legault, puis les ministres apprennent tout au fur et à mesure, quasiment comme nous autres. C'est ce qu'on comprend présentement, puis ça fait partie des gros problèmes de la CAQ.
Denis Gravel, on vous écoute à 14h avec Véro et Audrey.
Thank you!
Salut mon ami!
Salut
mon ami!
Marceau le matin. Marceau le